Rocket.com.
Le matin au www.rocket.com. On start en force. De 9h à 1h, c'est Wake Up avec Ismaël Trépanier et Jonathan Bouchard.
You're gonna feel my pain. Rocket.com.
Le pop là s'est rendu un peu gros qu'on est en train d'exploiter un enfant.
Ouais. Mais la question qu'il vient de dire là, est-ce que vous trouvez... Il a été poli, là. Il est poli.
Oh oui.
Il est très poli. Vous allez voir c'est quoi qu'un homme qui pense rien qu'à ses scènes va répondre comme truc complètement lâche et imbécile. C'est un petit mot peut-être à rajouter, Jonathan.
Oui, il disait un peu, il disait, vous trippez encore ce pauvre Jérémy. Ouais, ben, c'est parce qu'il y a un animateur de Radio Montréal qui a eu le guts de confronter un peu tout ce phénomène-là, Jérémy. On s'organise pour que le mot se passe.
Pour une des rares fois. Il faut que le mot se passe et qu'on arrête d'abuser des handicapés. C'est assez clair, là?
À partir d'une heure, les gars de Hard Sports prennent les commandes. Et Christian Dallaire vous offre, via leur collaborateur invité, le seul show de sport controversé à Québec.
Les Américains qui sont en train de nous voler notre sport national. C'est brillant. On a un commissaire qui porte pas ses culottes. Et j'aimerais donner une palme à une personne ici qui lui, a décidé de porter ses culottes comparativement à un imbécile comme Batman qui n'est pas capable de le faire. Je l'ai déjà applaudi, cet homme-là. Et là, j'ai envie tout simplement d'y botter le cul. C'est pourtant clair.
Puis la musique. Rien à voir avec les autres. Look out. Rocking.com.
Aujourd'hui, on vous a préparé une émission d'enfer. On va tuer quelques élans et on tuera aussi des mangoustes. Wake up!
Les midi 23 minutes. Madame Delcamp, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va.
Bon. Je crois qu'il faut que quelques sujets que vous allez aborder aujourd'hui qui risquent d'une certaine façon d'écorcher, qu'on le veuille ou non.
Oui, ça va égratigner des hommes qui sont tellement liés à leurs œuvres qu'on ne peut pas ne pas les citer. Et c'est pour ça qu'au début, je voulais parler des musulmans occidentalisés,
oui,
dont certains, vous en connaissez les noms, c'est Raleigh Benchir, Malek Chebel et Mustapha Sherif.
Oui.
Je vais ajouter d'ailleurs quelqu'un qui est très proche des musulmans, puisque j'ai trouvé ses œuvres en interview sur Umma.com, et je veux parler de Alain Soral. Donc, pour moi, je vais également le mettre en premier pour... parce que je l'ai écouté et je pense que... Bon, je ne reviendrai pas sur l'antisémitisme du monsieur, l'antisionisme, il ne connaît même pas la définition du sionisme. Il a été sympa, il a été sympa, mais je pense qu'il est profondément malhonnête. Donc je vais commencer.
Oui.
Il y a des musulmans occidentalisés qui me font exploser parce qu'ils mentent, mais il y a aussi des Français de souche qui sont odieux parce qu'ils font des amalgames qui n'ont pas de nom, et je veux parler d'Alain Soral. Et je vais commencer par l'émission, enfin, pas l'émission, l'interview que j'ai trouvée sur Umma.com, et chacun appréciera la réponse aux questions, enfin, la réponse qu'il donne aux questions qui lui sont posées.
D'accord.
On lui pose, par exemple, la première question: quelles sont vos positions à propos de la question du port du voile en France? Et il répond: je préfère le voile au string. Et il continue: préférer le voile au string, c'est d'abord, sur le plan vestimentaire, le choix du moindre mauvais goût. Le foulard est un vêtement doux, entre guillemets, et universel. Le string, lui, est un objet vulgaire, malsain, déjà sur le plan de l'hygiène, et bien plus ostentatoire. Ensuite, on lui pose la question à propos du rap. Alors il dit: oh, mais contrairement à l'idéologie à la fois nihiliste et ultra-libérale de la culture rap, la culture musulmane, elle, ne produit pas des délinquants drogués et suicidaires, mais des hommes élevés dans des valeurs de dignité et de respect qui ressemblent beaucoup, finalement, à celles qu'on inculquait aux hommes de France et à moi-même, avant la déferlante du néo-matriarcat à l'américaine importé par mai 68. Ensuite, on lui pose la question: mais attendez, vous écrivez que dans la République française, être anti-français, ce n'est rien, mais être anti-israélien, c'est impardonnable. Alors il répond: l'affaire Dieudonné n'est-elle pas sur ce plan exemplaire et il commence sans... C'est une psycho chez lui. Enfin, quatrième question, on lui dit, vous soulignez qu'en France, la vraie violence se situe entre les juifs pro-israéliens et les Français d'origine juive, universaliste et pro-palestinien. La vraie violence. Alors là, les gens qui habitent dans les banlieues, qui sont en quelque sorte tabassés en rentrant chez eux, qui ont vu leur voiture brûler, vont apprécier que la vraie violence se situe entre les juifs pro-israéliens et les Français d'origine juive, universaliste et pro-palestinien. Bon, alors là, on a compris, c'est même pas la peine. La cinquième question, je l'ai trouvée dans son livre, La sociologie du dragueur. Édition Blanche 2000.
Oh là là.
Et notre ami Alain Soral se dit fasciné, je cite,
par
Ben Laden.
Oh yeah.
Qu'il part d'une certaine grandeur d'âme, une certaine grandeur d'âme. Merci pour tous ceux qui sont morts grâce aux merveilleuses petites bombes qui sont des pâquerettes que lançait l'individu. Je prends maintenant, je vais passer,
juste un instant, il m'a dit hier, Soral, que ces gens-là sont mal organisés en passant.
Les musulmans?
Oui.
Parce qu'il dit la chose et son contraire, et c'est pourquoi je le crois extrêmement dangereux. Quand on lui dit quelque chose et qu'il sent, il dit oui, ensuite il dit non, c'est une sorte... Franchement, on croirait qu'il a été alimenté à l'école marxiste. Mais il est capable d'être extrême droite, marxiste, oui, gauchiste, catholique, français, exactement, russe, pro-Poutine. C'est vraiment un merveilleux homme, très cultivé. Mais je l'ai dit sur le forum et je le redis à l'antenne. Pour moi, c'est de la merde dans un bas de soie. Passons à une autre merde, un merdeux du moins. Prenons Malek Chebel.
Oui.
Célèbre anthropologue, psychologue, gynécologue. Je crois qu'il a fait des stages de gynéco pour faire son dernier livre sur le sexe. Énologue, enfin il est si célèbre qu'on ne le présente plus. Énologue, c'est moi qui invente, mais je crois qu'il aime bien le vin. Or, dans le show Ardisson contre Maurice, enfin le show Ardisson de 2005, quand il s'est présenté, il a parlé du Coran, enfin d'un ton très méprisant face à Maurice Antec. Il a parlé du Coran qu'il a lu, bien sûr, mais surtout il met en avant c'est Antec qui a d'abord parlé du Coran en disant il y a une notion très importante, celle de fitna. Très intelligent ce que Dantec a fait remarquer, parce que la notion de fitna, c'est une notion très fine, cette notion de sédition, c'est une notion essentielle, parce que l'islam a tellement peur de la discorde, de la sédition, de l'hérésie, de l'apostasie, qu'il préfère le meurtre à cela. Donc ce que disait Dantec, c'était une piste, quelqu'un de cultiver, de distinguer, aurait dit « Ah !» Maurice Dantec, vous connaissez cette notion? Mais c'est fantastique. Alors que savez-vous? Pourquoi? Comment? Malek Chebel a alors eu à l'égard de Dantec un regard de haine. Mais de haine, véritablement de haine. Comme si, l'infidèle, qui était Dantec, à ses yeux, avait osé pénétrer dans le territoire interdit. Il osait prononcer un mot arabe, qui d'ailleurs ne présente aucune difficulté de prononciation, fitna, la langue du Coran, et Dantec avait raison d'insister, je le dis, il y a la sourate 2, verset 217 ou 214, qui dit l'association est plus grave que le meurtre, moi je traduirais plutôt la discorde est plus grave que le meurtre, al-fitnatu akbar min al-qatl. En d'autres termes, c'est mieux de tuer l'hérétique ou le polythéiste que de laisser sortir de l'islam. Alors, Malek Chebel était ridicule en disant d'un ton très 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 hautain, moi, je lis, parce que, avez-vous lu le Coran? Oui, elle a répondu Dantec, et je crois qu'il dit la vérité, parce qu'il a lu, et c'est quelqu'un de très, tout à fait capable d'en saisir du fait de sa culture théologique. Alors, Chebel a dit, moi, je lis le Coran dans... Il a dit, en arabe? Évidemment, c'est ridicule de dire ça, c'est comme si moi, vous me parlez de la culture chinoise, et vous me dites, en chinois? Alors, il dit, Chebel, moi, je lis le Coran dans le texte. Alors, un collègue d'arabe, un agrégé d'arabe, arabisant et arabophone, m'a dit, tiens, Chebel lit le Coran et le comprend, c'est nouveau. Je ne sais même pas s'il peut le faire. Alors je lui dis, que voulez-vous dire? Ben, vous savez, en arabe littéraire, je ne sais même pas s'il comprend. <C'est>...
Bon. Madame, cas, Madame Delcambre, est-ce, que,
oui?
Est-ce que vous connaissez Gilles Kepel?
Oui.
Ça vous dit quelque chose, Fitna,
ah, oui, oui.
Guerre au cœur de l'islam? C'est, je crois que c'est sorti le 2 septembre 2004.
Oui, oui. Kepel, c'est un autre problème. Kepel, c'est un politologue. Donc, okay. Kepel connaît bien, connaît bien la politique.
Okay.
Alors, Kepel sera encore... Lui, il va passer pour pro-sioniste, lui. Mais en tout cas, il y a une analyse, de la situation qui est parfois... je lui donne pas raison sur le plan de l'islamologie, de la connaissance des textes.
Okay.
Mais sur le plan de l'islam, sur le terrain, on peut pas dire qu'il ne connaît rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Faut pas non
oui, plus... Oui, oui, je sais. Non, non, je comprends.
Voyez. Donc, il y a notre Chebel, il les accumule, parce que dans une autre émission que m'a passé Joseph Bossard, parce que Joseph Bossard, en voyant le c'est celui qui a contribué à qui a l'adresse de... Comment il s'appelle, du savant Luxemburg. Vous savez qu'après l'émission Rokik, c'est pour ça que Rokik a une grande audience. Après l'émission Rokik, il y a un éditeur qui m'a téléphoné, hein, qui m'a dit voilà, je suis un éditeur, je publie. Je publie Luxemburg.
Eh ben.
J'ai donc, à ce moment-là, j'avais en ligne Bossard.
Attendez, Madame Delcambre, là, il n'y a personne qui nous écoute, franchement. Là. On s'est fait dire qu'il y avait seulement 2 auditeurs.
Non, c'est faux. Ça, je reconnais, ça, on ne peut pas laisser dire ça. Moi, je suis pour la vérité. Rokik, alors je dis, c'est vrai que le fait que, comment dirais-je, Dantec ait en quelque sorte cautionné et en quelque recommandé, alimenté cette radio, a fait que, c'est vrai, ça a donné un plus, et d'ailleurs vous le reconnaissez,
oui.
Ne faites que ces éloges. Moi je n'ai entendu que des éloges de votre bouche.
Oui.
Ceci dit, dire que Rokik n'a pas une audience extraordinaire, je suis absolument contre ce genre de désinformation. Je suis contre la désinformation de quelque bord qu'elle émane. Et ça, je ne peux pas laisser dire ça, puisque quelqu'un qui était à Londres, qui a écouté, m'a téléphoné en disant « je publie ». Et Bossard a pris rendez-vous avec lui. Donc, Joseph Bossard, c'est pas moi, hein, c'est-à-dire que je trouvais que j'avais en ligne, c'est vraiment un truc absolument incroyable. Et voilà, il a dit « seulement il faut, pour traduire le texte de Luxemburg, quelqu'un qui connaisse l'allemand, qui connaisse le syriaque et qui connaisse l'arabe ». Donc,
oui.
Donc Chebel, dans notre émission passée par Bossard, a dit « qu'est-ce que c'est l'islam ?» lui a-t-on demandé. Et vous savez, il répond n'importe quoi. Il dit, parce qu'on lui a dit, c'est la soumission. Il dit, oui, la soumission. Mais c'est une soumission fervente. Libre de le faire ou de ne pas le faire. Il y a le mot salam, la paix, dedans. Alors, on pourrait répondre, il y a aussi le mot soulam, l'échelle, dedans. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Mais il y a un autre jésuite musulman que je vais vous citer, c'est Raleb Benchir. Lui m'a présenté comme Mariana Falaci, pour vous dire que je le qualifie, c'est plus gentil, de jésuite musulman. Et alors, Raleb Benchir, qui présente l'émission Islam sur France 2, le dimanche matin à 8h45, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un physicien, docteur en sciences, vice-président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, c'est le fils du cher Abbas, qui était le cher, qui était le recteur de la grande mosquée de Paris. Avant d'Ali Boubacar.
Okay.
Et alors, il a écrit un petit livre, qui s'intitule... Ah, moi, j'ai pris son livre. Hein. Son livre m'a servi de livre de chevet avec un crayon. Alors, c'est quoi l'islam? 9 €, hein. Alors, c'est quoi l'islam? Aux presses de la Renaissance. Hein, je fais de la pub pour son livre. Bon. Et alors, on lui demande, évidemment, l'islam signifie... Ah, il dit, si, évidemment, l'islam signifie paix et salut. Mais il va plus loin. Il dit s'islamiser revient à entrer dans la paix. C'est une pacification de l'âme. Page 13. Et alors, là le clou, il continue, en réalité, la périphrase qui traduit le mieux le sens hein, de l'islam, c'est, écoutez bien parce que pour l'écouter, déprise de soi, pour une remise de soi confiante et dans la paix à Dieu. Déprise de soi, pour une remise de soi confiante et dans la paix à Dieu. Et ensuite, on continue, c'est un abandon paisible et spontané dans un acte libre. Alors vous comprenez que les gens qui entendent ça, ils se disent, ben, c'est pas du tout dangereux l'islam.
Ben non.
Ensuite, il y a des questions sur les origines de l'islam. Alors il dit, regardez, il est très malin et très intelligent.
Vas-y.
L'islam, oui, l'islam se veut un retour à la foi d'Abraham et une restauration, écoutez bien là, de son culte qui aurait été altéré et gauchi. Altéré par qui? Gauchi par qui? Il ne nous le dit pas. Par les juifs et les chrétiens, bien sûr. Mais il ne le dit pas. Et il continue, l'islam est la religion de la prime nature, c'est-à-dire la religion naturelle que vous devriez avoir, vous, moi. En somme, l'islam, dit-il, est une religion primordiale et immuable, et immuable.
Immuable, tiens donc.
Extraordinaire, hein. Ouais. Ensuite, la question, que pensent les musulmans de Jésus et de Marie? Écoutez bien, les musulmans reconnaissent Jésus comme le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Ça, les catholiques reconnaissent carrément. Mais il ajoute, même si le vocabulaire utilisé n'a pas le même sens dans les deux théologies chrétiennes et musulmanes. Attendez, là, on est où, là? Page 27. Et les gens, mais vous savez, c'est un peu comme le discours de Forale. On avale ça, ah ben, nous, on ne retient que les musulmans reconnaissent Jésus comme le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. On ne retient pas, même si le vocabulaire utilisé n'a pas le même sens dans les deux théologies chrétiennes et musulmanes. Très fin comme méthode. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un peu comme les assurances. Vous avez tout le contrat d'assurance et puis en petit caractère, ou alors ça vient comme ça, incidemment. Mais évidemment, il y a ça pour lequel vous n'êtes pas assuré. Ensuite, le statut de la femme dans le Coran. Là aussi, c'est une merveille.
Parlons-en.
Mais les jésuites auraient accueilli M. Khaled Benchir avec plaisir.
Ah oui?
Le statut de la femme dans le Coran. Alors il dit, il y a dans le Coran 3 ou 4 passages qui paraissent durs contre la femme.
Trois ou quatre, là. Vous me dites 3 ou 4, c'est
oui,
bien ça?
3 ou 4 passages qui paraissent durs contre la femme. Écoutez bien les bémols qu'il va mettre. Toutefois, je les trouve beaucoup moins durs et moins problématiques que ce qu'enseigne le Lévitique. Ils sont de la même facture que ce que préconisent certaines lettres de Saint Paul. C'est-à-dire, l'islam est beaucoup moins dur pour les femmes que les juifs, que ne sont les juifs, et ils sont comme les chrétiens. C'est la même chose, c'est comme Saint Paul. Mais alors là, le clou, c'est, vous allez l'entendre, dans la guerre sainte et telle. Alors là, évidemment, la question, parce que c'était après le 11 septembre, les gens voulaient savoir, et on a dit, on prend quelqu'un qui est arabe, qui voit l'islam de l'intérieur, qui est cultivé, qui peut parler français, qui peut comprendre. La guerre sainte est-elle inscrite dans le Coran? Page 63.
Mais, Madame Delcambre, il y a une question qui vient. Lorsque vous me dites Lévitique, là, est-ce qu'on fait bien référence à ce que je crois, là, la Bible, là, c'est carrément ça?
Ah oui, le Lévitique, c'est la Torah.
C'est okay.
Le Lévitique, je veux dire, c'est un des livres, bien sûr, dans la Bible juive.
Ok, c'est bon.
Tout est interdit.
Merci.
Voilà, je vous en prie. Donc, la guerre sainte est-elle inscrite dans le Coran? Alors, page 63. Oh, il dit, c'est un habit de langage scandaleux de parler de guerre sainte. Nous ne trouvons nulle part l'épithète sainte accolée au mot guerre. Dans tout le Coran, vous pouvez chercher dans tout le Coran. C'est sûr, il n'y a pas le mot guerre et ensuite sainte. Aucune, d'ailleurs, il dit aucune guerre n'est sainte. Alors, mais en même temps, il dit, page 64, cependant, on ne peut nier qu'il existe un certain nombre de versets de facture martiale. Déjà le mot martial, c'est-à-dire un peu militaire, un peu dur.
Oui.
Notamment ceux de la sourate 9. Ils sont terribles et nous ne pouvons les ignorer ou les minorer. Ce sont ceux-là même qui sont instrumentalisés par les extrémistes criminels du GIA et les sbires de Ben Laden. Mais écoutez bien ensuite. Mais nous ne devons jamais perdre de vue qu'il faut replacer le texte en son contexte. Tu parles, Toto, comme c'est la parole de Dieu immuable et intangible. Il n'y a pas à replacer le texte dans son contexte. Mais ça fait rien. Okay. Ça vient comme ça pour les Occidentaux. Ensuite, écoutez bien ceci. Et là, les pauvres juifs, ils vont en avoir encore, ils ont déjà été servis hier, mais là, écoutez bien. Aucun être sensé n'impute à l'ensemble du judaïsme l'assassinat de 29 Palestiniens en pleine prière dans une mosquée par Baruch Goldstein, qui justifie son geste par la lecture du livre d'Esther lors de la fête de Pourim. Ce n'est pas parce qu'il est dit dans la Bible qu'il faut exterminer les Jébuséens, je ne sais même pas ce que c'est, jusqu'à la 7e génération, et anéantir le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule, qu'on oublie le souffle d'amour qui traverse la Bible. Mais qu'on se rappelle, page 69, à quel point les textes bibliques parlant de la guerre sont nombreux, avec des détails épouvantables et des descriptions effrayantes. Et alors, la petite phrase d'avertissement. Alors, le même traitement doit être réservé au Coran. Sous-entendu, vous êtes, vous, chrétiens, indulgents à l'égard de la Bible, avec tous les passages violents que la Bible comprend, Eh bien, je vous en supplie, je vous en prie, je vous en conjure, ayez la même indulgence à notre égard. Malin, le bonhomme, hein? Malin.
Très malin.
Extraordinairement malin. Vous imaginez le danger, de même que notre ami Malek Chabel, bien aimé, avait écrit justement, avait cité, non sans le dire, sur Al-Saint, verset 64, où il dit, ce sont les juifs qui allument les guerres. On connaît ça. Quand on, vous savez, Céline, on connaît ce genre de propagande que les juifs allument partout dans le monde, les guerres, et on ne va pas continuer sur cet antisémitisme au cliché éculé.
Madame Delcamp,
même son cloche, c'est Mustapha Chérif.
Okay.
Mustapha Chérif, philosophe, islamologue, dont j'avais parlé l'autre fois, dans son livre « L'islam tolérant ou intolérant ?» point d'interrogation, Odile Jacob. Écoutez bien ce qu'il dit. Le monde musulman veut sortir indemne, c'est-à-dire sans être attaqué, touché, sali du monde informe, c'est le monde occidental, hein, dans lequel on se trouve, et traduire dans le réel les orientations du Coran et les paroles du prophète, page 133. C'est quelqu'un qui a été invité chez nous, avec nos sous, au Collège de France, invité par Finkielkraut, et qui dit... Le monde musulman veut sortir indemne de votre sale monde occidental, informe, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de loi, sous-entendu, qui n'a pas de repère, qui n'a pas, dans lequel les musulmans se trouvent, et traduire dans le réel les orientations du Coran et les paroles du prophète. Page 141, bas de page. L'islam de toujours, celui du progrès et des lumières, peut apporter sa contribution pour répondre à la modernité et à la mondialisation. C'est-à-dire, l'islam peut apporter un souffle à votre manque de spiritualité. Et devant la parole de Daniel Pipes, c'est quelqu'un de chez vous, ou plutôt des États-Unis, page 159, il a écrit, Daniel Pipes, c'est un islamologue, il a dit, les musulmans pourront se moderniser et donc se développer seulement s'ils acceptent le modèle occidental. Et alors lui, Mustapha Chérif, dit, c'est une honte, c'est une dépersonnalisation. Les musulmans désirent accéder au progrès, écoutez bien, sans perdre leur âme. C'est ce qu'avait déjà dit s'appelle Hichem Jait. L'Occident a la technique, mais nous, on a la spiritualité, on ne veut pas perdre notre âme, imbécile. Alors il continue, Mustapha Chérif, il y a lieu de préserver et de renouveler, tu parles, bravo les femmes voilées, un mode de vie conforme au sens ouvert que suggère le Coran, page 162. Et page 160, il a écrit, les musulmans peuvent contribuer à la formation d'une modernité différente. C'est pour ça qu'on le paie avec nos sous. Alors, il continue, c'est la bombe, là. Accréditer l'idée que la violence serait inhérente à la culture des musulmans et que le Coran en serait une des sources, il y a là une thèse raciste, scientifiquement irrecevable. Vous vous rendez compte?
Ouais.
Et c'est le même discours chez Malek Chabel. Je relisais dans le show avec face à Dantec, et Malek Chabel dit, oui, l'islam, dans sa grande majorité, est une religion de paix. Et parce que les musulmans prient Dieu, ils sont un front contre la barbarie. Et il a rajouté, Malek Chabel, il faut rendre justice à cette religion. L'islam a permis à l'Europe d'avoir la science. Et c'est à ce moment-là que justement, Dantec était intervenu tout à fait à propos. Il dit, attendez, là. Il a même dit, à un moment donné, c'était presque grâce aux Arabes que l'Europe avait pu avoir la connaissance du grec. Et là, Dantec a très bien répliqué. Il a dit, attendez, il y a les pères de l'Église. Et le problème des pères de l'Église, regardez comment agit Chabel. Le problème des pères de l'Église, Quelle date a dit à ce moment-là Chabel. Alors, Dantec a légèrement hésité, 5e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle après, il s'est repris, parce qu'il faut penser à un père de l'Église précis. Et Chabel, comme un roquet qu'il est, comme un chien qui tient la jambe de quelqu'un, ou il avait son os, il n'allait pas lâcher, il a dit confusion, comme la confusion que vous opérez à propos de l'islam. Et là, il avait déjà son argument devant Hardisson, Hardicon qui était là, et qui lui n'a rien trouvé de mieux que dire par rapport là 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 là, l'accent québécois. Oh mon Dieu, je préfère rencontrer des musulmans plutôt que de rencontrer, plutôt que d'affronter l'accent québécois. Ah, soit quoi d'ailleurs, Dantec a très très bien répondu, il a dit l'accent québécois, c'est l'accent de nos provinces françaises, de Normandie, je regrette. Hein. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, c'est porté contre la France, vraiment, une critique qui... Franchement, faut réfléchir là-dessus.
Ben, hein. La monarchie, justement, avait
exactement.
C'est de eux que vient l'accent québécois.
Je disais, je l'ai mis sur mon forum, que mon père était procureur dans une ville très chère aux Canadiens qui s'appelle La Flèche. Et c'est vrai qu'il y a des Canadiens.
Hein, c'est vrai, ça.
Oui, il a été pendant 30 ans procureur de la République auprès du tribunal, à La Flèche, à l'époque où il y avait des tribunaux d'arrondissement,
une
ville où il y avait le prytané militaire. Et toute, je le dis d'ailleurs sur le forum, toute mon enfance, j'ai entendu mon père, qui n'est jamais sorti à la limite de la Normandie, dire, quand je serai à la retraite, j'irai au Canada. Le pauvre, il est décédé, mais nous, on riait, parce que même, on disait, c'est pas vrai, c'est une canadomanie, là. Non, parce que c'était un peu le, lui, en tant que la Flèche, vous voyez, il y a le Loir, il y a même, m'a dit, quelqu'un qui écrit sur le site, qu'il y a une plaque près du Loir, où il y a marqué, voilà, vous partir, les gens, les paysans, qui n'avaient pas, qui mouraient de faim, et qui sont allés au Canada, et qui ont connu, en quelque sorte, une gloire extraordinaire, parce que ils ont fait fortune. Alors, ils revenaient parfois dans leur région natale, la basse Normandie, avec de belles voitures américaines, et les gens disaient « Ah !» Et je me souviens qu'il y avait la bonne de mes parents qui avait acheté ma cabane au Canada, une chanson à l'époque, et c'était le romantisme canadien. Et il y a quelqu'un qui m'a quand même fait remarquer sur le site, c'était la cabane au Canada, alors qu'il y a des Canadiens qui ont des superbes maisons. Mais vous voyez, c'était un peu ce côté, il est parti sans rien. Et puis, c'est, vous voyez, c'est un peu le côté poète et paysan, il est parti. Et puis, il est devenu bûcheron. Ils ont eu nombreuses familles. Mon père en est 5, alors il était pour les nombreuses familles. Ils sont à la fois saints, S-A-I-N-S.
oui, tout à fait. Pas besoin de spécifier quand même.
Non, mais c'est très curieux de parler comme ça de la part d'un
oui. con. Mais bon, j'ai une chose, Mme Delcambre, que vous en avez deux, vous, par contre.
De quoi?
Ben, des seins.
Ah oui! heureusement.
Mais dites-moi, Mme Delcambre, j'ai une question qui me vient tout de suite comme ça. Est-ce que c'est vrai que le Coran, c'est le premier livre, d'accord, qui a été écrit dans la langue arabe?
Le
Coran, est-ce que
c'est un ouvrage, c'est oui. considéré par les Arabes comme... un ouvrage, un des premiers en prose arabe.
Okay.
Il y avait beaucoup de poésie arabe avant, attention. Hein.
Oui.
Et justement, je reviens là sur l'hypothèse de Luxemburg, pourquoi c'est assez génial.
Oui.
C'est que les poètes, à l'époque de Mahomet, sillonnaient, c'était les journalistes du désert. Ils allaient à travers toute la région, depuis jusqu'à là-haut, en Syrie, jusqu'en bas, du côté de l'Éthiopie, partout. Et ils étaient compris. C'était une langue qui n'était pas une langue locale, c'était une langue comme une langue de culture, une langue koinée. Et quand il y a eu la première émigration, ça c'est les musulmans qui racontent ça, ils disent on a été obligé de se réfugier en Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie. Et devant le Négus, ils ont récité la sourate Mariam, la sourate de Marie. Et le Négus aurait pleuré. Il fallait que le Négus ait compris. Mais s'il a compris, c'est parce que en Éthiopie, en Abyssinie, on pratique une langue qui est très proche du syriaque, l'amharique, c'est-à-dire qu'une langue très proche du syriaque et de l'araméen, donc très proche de l'hébreu, c'est une langue sémitique. Et s'ils ont pu comprendre ce que leur racontaient les gens qui étaient réfugiés, les réfugiés de la Mecque, c'est bien parce que la langue était commune. Donc, si vous voulez, les poètes, c'est la même chose. Ils écrivaient, il y avait même des poèmes qu'on appelle mu'allaqat, les suspendus, qui était accroché à, comment dirais-je, là, à l'endroit où on trouve la Kaaba, et c'était les meilleurs poèmes qui étaient sélectionnés. Et là où les mensonges un peu des musulmans, c'est qu'il y avait des poétesses, des femmes, qui étaient poétesses à Khansa, et elles étaient très très appréciées. Une femme qui savait parler avec un arabe, vous voyez, avec, ça ressemble un peu aux alexandrins, du genre... au rage, au désespoir, au vieillesse, ennemi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, voyez, c'est-à-dire comme ça, avec des vers, des pieds, que ça rime et que ça se réponde bien, les Arabes adorent ça. C'est-à-dire qu'on raconte qu'un jour, un père avait une fille fort moche et n'arrivait pas à la marier. Il a demandé à un poète, il lui a dit, je t'en supplie, dis quelque chose de joli pour qu'elle puisse trouver des prétendants. Et alors, il a eu un poème extraordinaire où il la vantait, et c'était si beau qu'elle a eu, elle avait plein de prétendants qui voulaient l'épouser. Tellement la magie du verbe était extraordinaire. C'est-à-dire que, vous savez, cette poésie où vous avez le rythme des chameaux cadencés avec des pieds, vous savez, que ça se, il y a la kaf, il y a la rime, c'est-à-dire la même chose. C'est toute la magie de la langue arabo-syrienne, la langue du, qu'on l'appelle langue coranique ou langue arabo-syrienne comme Luxemburg. C'est une langue très, très, comment dirais-je, très envoûtante. Vous voyez, c'est un peu comme si vous écoutez un peu du chant grégorien, il y a quelque chose quand même de magique. Pour ceux qui l'écoutent, hein, je dis bien. Et alors, je peux continuer encore un petit peu ?
Madame Delcambre, oui, vous pouvez continuer encore un peu.
Et vous m'arrêtez sans aucun complexe, parce que je vais vous citer quelqu'un qui vous plairait bien. C'est que, oui. Dit Malek Chebel, vous savez pas pourquoi il dit, mais oui, on n'est pas tous des égorgeurs, l'islam n'est pas l'islamisme, hein, alors que c'est pas vrai, parce qu'Henri Boulade, le jésuite, a dit, l'islam et bien, l'islamisme est bien compris dans l'islam, puisque comme le poussin l'est dans l'œuf. Mais je réponds, moi, non, l'islam, ce n'est pas la religion de la paix, de la vie, de la liberté que vous présentez, je dis ça à tous ces gens là, que je viens de stigmatiser. Mais alors, il y a Chebel qui pose une question, il dit, eh oui, mais l'expansion de cette religion, c'est une énigme. Comment expliquez-vous ? Et je dis, pour ceux qui m'écoutent, les arabophones qui m'écoutent, énigme lourzoun. Il y a quelqu'un qui va répondre que ce n'est pas une énigme. Et devinez qui ? C'est Louis Chagnon. Louis Chagnon, l'historien, dans son livre « Les débuts des conquêtes arabo-musulmanes, mythes et réalités », qui répond, mais il n'y a pas d'énigme. Il y a le fait que ce qui a permis à l'islam de progresser, c'est l'appât du butin. C'est l'appât des femmes, de l'argent et des femmes. Vous dites à quelqu'un, venez, suivez-moi, vous aurez plein de meufs et plein de fric. Je vous assure que les gens suivent, hein. On a tué, on tue encore pour cela. Et Chagnon écrit ceci, édition Godefroy de Bouillon. Le moteur essentiel des conquêtes de l'islam et du succès de l'islam, ce fut le butin, c'est-à-dire le pillage et le vol. Mahomet fut de ce point de vue un modèle. C'est Chagnon qui parle, hein, je ne veux pas me faire tuer pour lui, écoutez bien ce qu'il dit, et vous arrêtez quand vous voulez. Mahomet fut de ce point de vue un modèle. Ce fut en effet un chef de brigand, et sa religion emporte les stigmates. La sourate 8 du Coran s'intitule ni plus ni moins que le butin, car le problème délicat chez les voleurs, quand leurs espoirs sont couronnés de succès, reste toujours le partage.
Madame Delcambre, vous me donnez 2 minutes, on fait une petite pause.
Bien sûr.
On vous garde jusqu'à la fin de l'émission, ok?
D'accord.
C'est un bon deal, ça?
Très bon, excellent.
Ok, restez là, ça ne sera vraiment pas long.
Hey, d'accord. Les gars, j'ai trouvé une façon de sonner plus FM.
Rockkick.com. Les Jobins, une présentation Rockkick et quittezlequebec.com.
Amis, les Jobins sont le nouveau système positif de recherche d'emploi.
Bonjour, je m'appelle Jonathan Bouchard et j'aimerais ça déménager à Calgary. Je me cherche un job surtout dans le domaine de l'informatique. Je suis un programmeur à la base. J'ai un deck avec une dizaine d'années d'expérience dans l'informatique. Je suis quelqu'un de très travaillant, de très motivé, qui aime les défis. Par contre, je pourrais dire que j'aime ça dire ce que je pense, fait que ça fait pas souvent l'affaire des employeurs, mais bon, c'est ma personnalité et je l'assume. Je suis quelqu'un de très travaillant, je suis quelqu'un de très honnête et qui donne son maximum dans tout ce qu'il fait, particulièrement dans ses emplois. J'aime ça quand ça fonctionne, j'aime le travail d'équipe. J'aimerais travailler dans des gros projets de programmation avec des grosses équipes. Si vous désirez avoir plus de détails techniques, exemple les langages de programmation que je connais, etc., mon numéro est le 007.
Entreprise et chercheurs d'emploi, contactez-nous via le job@rockkick.com.
C'est assez clair. Pour avoir tout ce que vous voulez en un rien de temps, la tabagie Le Lotus est votre référence. Des journaux, magazines et même petites gâteries. Demandez et vous aurez. Tabagie Le Lotus, deuxième étage à la place de la Cité, 651-7716.
Quand je veux me gâter, en revenant de veiller, j'arrête avec ma gang à Mont-Ashton déguster ma poutine. Tout le monde le sait, une soirée réussie, ça se termine toujours chez Ashton.
Allez-y, gâtez-vous chez Ashton. Juste du frais, juste du vrai.
5
peuple a droit à son autonomie. En grande partie, c'est un prérequis de se faire enculer en partant.
Merci beaucoup, Eric, de venir nous voir.
Rock.com.
Midi 55 minutes, il en reste pas pour longtemps au niveau du show Wake Up, mais je crois que on va le terminer en beauté avec Anne-Marie Delcambre. Madame Delcambre, allez-y, là, c'est le temps.
Oui, j'étais en train de parler justement que Chagnon, qui est professeur d'histoire et qui a été attaqué parce qu'il avait dit que Mahomet était un brigand et un voleur, parce qu'il avait quand même attaqué les caravanes, je m'excuse, c'est la réalité historique. Il dit que c'est un modèle, c'est un modèle, il constitue un modèle, ça ne vous étonne pas si les gens essaient de l'imiter. Et donc, il continue, ça posait tellement de problèmes, cette histoire de butin et de partage du butin, qu'il arrivait à Mahomet de se faire bousculer et d'avoir son manteau arraché. Et c'est ce qui se passe lors du partage du butin après la bataille de Hunayn. Vous n'avez qu'à lire Ibn Hisham, Paris, Fayard, 2003, page 362. Et c'est l'attrait du butin qui a facilité les choses, parce que c'est tellement vrai que, d'ailleurs, c'est écrit dans le Coran, sourate 8, je le lis en français, les croyants interrogent sur le butin, répond, le butin, c'est-à-dire les prises de guerre, c'est à Allah et à l'apôtre. Yas'alunaka anil anfal, qul al-anfal lillahi wa ar-rasuli. Et puis vous avez le fait aussi, la grande preuve, c'est que lorsque Mahomet est mort, eh bien, il y a beaucoup de tribus qui voulaient carrément ne plus payer l'aumône, vous savez, la zakat.
Oui.
Et alors, comme on ne pouvait pas lutter contre les musulmans, ne pouvait pas, à la limite, être tué par d'autres musulmans, il y a eu Abou Bakr qui a eu une astuce. Il a dit, mais s'ils ne paient plus la zakat, ce sont des mauvais musulmans, parce que il y a dans le Coran, dans la sourate 2, verset 17, qui dit ceci. Non, pas la sourate 2, c'est la sourate 8, verset 17, qui dit « Les croyants sont ceux qui font la prière et qui paient l'aumône. » Al-mu'minun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc comme ils ne payaient plus la zakat, ils sont considérés comme apostats, vous voyez, plus musulmans, donc on a pu déclencher contre le djihad et les combattre. Et ça donne tout à fait raison à Dantec quand il dit que c'est extraordinairement important, parce que la fitna, c'est-à-dire ce qui commençait à se faire à la mort de Mahomet, les tribus ne voulaient plus être musulmanes, eh bien, pourquoi dans le Coran il est écrit « Al-fitna akbar min al-qatl » C'est-à-dire que c'est pire, il faut mieux tuer les gens, mais les empêcher à tout prix de sortir de l'islam. Et moi je vous dis, c'est ça que vous appelez une religion de paix, d'autant plus que dans la sourate 2, verset 216 ou 212, il est écrit « Kutiba alaykum al-qital », le combat vous a été prescrit. Alors, cherchez à nous bourrer la tête en vous disant « l'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance », je dis « c'est un gros mensonge ». Et ça, je ne peux pas ne pas le dénoncer. Et chaque fois que je viendrai sur vos ondes, eh bien, vous entendrez le même discours, parce que c'est la vérité.
Est-ce que Madame Delcambre, vous voulez continuer à venir comme ça, à chaque vendredi, discuter sur nos ondes?
Moi, je viendrai parce que je vais vous expliquer pourquoi.
Oui, je vous écoute.
C'est exact que je suis tout à fait consciente que je suis venue au début parce que, bon, c'est vrai que Liberty Vox, auquel je suis très attachée, et je suis venue à partir de Liberty Vox, avait à l'égard de Maurice Dantec une immense admiration.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait pour Maurice Dantec. Seulement moi, j'ai remarqué une chose, je le dis carrément. Lorsque moi j'espérais que Maurice Dantec écrirait un petit papier, une petite communication... Tellement nous l'avons soutenu sur le site, etc. Bon, j'ai dit au moins un papier à la une, comme par exemple certains ont écrit, un professeur d'université, Harwell le Jeune. J'ai dit, Dantec écrira quand même quelque chose. Il n'a rien écrit. Et moi, celui qui ne fait pas quelque chose pour le site Liberty Vox, moi je défendrai Dantec parce que c'est honnête, c'est sur le plan de l'islam que je le défends. Je pense qu'il a une très bonne intuition, que c'est le danger qui nous guette.
Oui.
Ceci dit, je suis attachée au site Liberty Vox. Liberty Vox s'est mariée à Rokik et je ne vois pas pourquoi je divorcerai.
C'est ma nouvelle femme, effectivement. Ben, mais écoutez, c'est plutôt un amour un peu comme La Belle et la Bête, impossible, un amour impossible. Mais il reste quand même que j'adore ce que l'on fait avec vous avec Super Résistant. Et j'ai apprécié aussi les interventions de Maurice Gédantet. Je pense que vous avez vu sur le site, il y a des gens qui ont eu vent que Maurice Gédantet ne veut plus, par des raisons X, intervenir sur notre station. Et,
c'est sa liberté, mais...
C'est
mais,
sa liberté.
Oui, c'est exact, mais...
Mais je tiens à dire ceci, Mme Delcambre.
Oui.
J'ai toujours respecté Maurice Gédantet, et les gens qui essaient de salir rocky.com et qui font à croire que hier, exemple, j'étais pratiquement ami avec Alain Soralde, se trompe, mais complètement. Je ne suis pas de ce type. Je laisse intervenir qui je veux sur cette station. Ce ne sont pas tous mes potes, mais il est évident qu'hier, ce n'était pas une entrevue d'un futur Alain Soral qui va remplacer Maurice Gédantet en aucun temps. Vous pouvez me faire confiance, aux, les auditeurs. Je vous assure de ceci.
Moi, je crois, hein, parce que sincèrement, ce que vous avez dit sur Maurice Gédantet n'a jamais... Alors, c'était très difficile, et j'en veux un peu que ce débat ait eu lieu, parce que c'était très difficile parce que, vous savez, une désinformation, soit qu'elle soit opérée par un marxiste, ou qu'elle soit opérée par un vicieux d'extrême droite, c'est très très difficile de redresser ce qui est tordu. Vous avez en apparence un très bel édifice dont les fondations sont pourries, et c'est très très difficile, il aurait fallu à chaque fois faire une pause et le reprendre sur chaque chose. C'est ce que fait un peu aussi Chebel. C'est-à-dire qu'il aurait fallu dire, ah, vous dites ça, le sionisme, quelle est votre définition du sionisme? Vous dites ça. Mais alors, voilà, il fallait 3 heures de vous voyez, il fallait... Exactement. C'est pour ça que c'est très difficile et que personnellement, moi je ne veux pas débattre avec des gens comme Chebel ou d'autres, ou comme Shérif, parce que je sais qu'ils me mentiront, qu'ils me... En plus, ce que j'ai remarqué Soral, c'est qu'il joue la fausse convivialité, comme un boxeur, il débite à un rythme de TGV tout ce qu'il a à dire, on peut même pas l'arrêter, on peut même pas le contredire, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et on voit très bien son discours quand on le connaît, mais encore faut-il le connaître. On connaît ces discours, c'est le discours de Jean-Marie Le Pen, c'est le discours des cathos d'extrême droite, pour lequel je suis tellement réticente. C'est-à-dire que bien sûr que nous défendons, nous sommes sur le site très vigilants à l'égard de l'islam, mais ce n'est pas un site dans le genre Le Pen qui se paie en quelque sorte, qu'il y a quelque chose au niveau de l'antisémitisme. Moi je ne suis pas juive, et je dis qu'il y a des juifs, il y a des crapules chez les juifs, mais à ce point-là, diaboliser Israël et diaboliser tous les juifs, c'est pathologique, c'est pathologique. Moi je dis quelqu'un, il y a un problème là, il faut voir d'où vient ce problème, je m'excuse. Ouais.
Ah non, en tout cas, je vous ai
toujours senti tout à fait favorable quand je disais attention, attention les chrétiens crétins quand vous commencez à dérailler ou quand vous commencez. Ah non, non, de ce point de vue-là, et c'est vrai que vous critiquez toutes les religions et vous avez fait venir Messaoud Bourras,
oui.
Demain vous pouvez faire venir Louis Chagnon. C'est-à-dire que vous avez toujours dit, vous êtes une radio commerciale, nom de Dieu, c'est normal de vouloir gagner sa vie. Moi, personnellement, que vous gagnez du fric avec moi, je m'en contrefous. Voilà. Donc, les choses sont très nettes.
Oui. Mais, madame, savez-vous quoi? Je vais vous dire quelque chose. C'est de manière amicale que je vous dis ça. Et aussi,
oui.
C'est du fin fond de ma pensée. Un, je vous apprécie beaucoup. Deux, j'apprécie Super Résistant énormément. Je vous apprécie énormément au niveau des interventions que vous faites. Rockick.com. Si on fait abstraction qu'elle est commerciale, ça serait, et aussi d'une certaine façon, malhonnête, autant de ma part et ainsi que de l'équipe qui travaille avec moi le matin, de dire, ah ouais, les méchants cathos, les méchants islamistes. Non, c'est pas une partie, c'est pas une game, ce n'est pas un jeu que l'on fait en ce moment. Il y a aussi beaucoup de vérité à l'intérieur de rockick.com. Et je pense que vous êtes assez intelligente, Madame Delcambre.
Ben, c'est-à-dire que moi, je pense. Alors, moi, je vous dis ce que je pense.
Oui.
Je pense que que Maurice Gédantet, il faut qu'il fasse attention parce que ses livres, c'est très, très, très bien. Mais parfois aussi, le contact. Alors, il peut changer de radio. Moi, on peut toujours changer de radio. Moi, depuis que je suis sur LibertyVox, j'ai des tas de propositions pour changer de forum. À tel point que j'ai dit, ça suffit. Arrêtez. Changer de radio, changer de forum, changer de mari, changer de lunettes. Il y en a qui aiment. Moi, je suis pour la fidélité. Quand on a commencé quelque chose, on le continue. quand on a commencé à lancer, il y a des choses qui ont germé, il y a des idées qui passent. Vouloir absolument tout casser après avoir construit quelque chose, moi je ne m'amuse pas à ça.
Il y a des gens jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui veulent faire tomber Rockick. Il y a des gens qui voudraient peut-être faire tomber aussi Liberty Vox.
Puis s'il fallait attaquer quelqu'un pour le show d'hier, c'est moins vous qu'il faudrait attaquer que le fait. Il faut s'attaquer à Soral. Vous êtes un animateur, et un animateur, c'est un porte-voix, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui orchestre.
Voilà.
Vous vous identifiez pas aux gens qui viennent parler sur votre radio. Après tout, celui qui s'est converti à l'islam, vous n'êtes pas converti à l'islam, et vous l'avez laissé parler.
Oui. J'aurais dit très, très, très clairement, Mme Delcom, j'endosse à 100% ses commentaires, chose qui est totalement fausse. Je n'endosse pas ses commentaires. Je l'ai laissé parler, et les auditeurs, je crois qu'ils sont assez intelligents et ils sont assez matures et adultes pour s'apercevoir du discours que cet homme tient. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu vent carrément que j'étais rendu son grand copain. Et alors, l'histoire dans tout ça, c'est que ce gars-là, je l'ai laissé parler, ça fait pas de lui, peut-être sur d'autres plans, là. Est-ce qu'on peut faire abstraction de ses commentaires, s'il vous plaît? Peut-être que c'est une bonne personne, c'est un bon pote à discuter dans la vie de tous les jours, de n'importe quoi. Il a une opinion qui est complètement mais tarée. Ça, c'est vrai.
Il s'est présenté de manière sympa, faut dire la vérité,
oui.
De manière courtoise.
Oui.
Vous ne pouvez pas. Attendez, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stigmatiser quelqu'un. Il fallait à ce moment-là que le show n'ait pas été organisé. Mais on ne peut pas. C'est sûr que même à la limite repousser. Il déteste Dantec. Alors c'est vrai que c'est très vicieux parce que vous étiez entre le marteau et l'enclume.
Voilà.
Vous receviez à la limite, c'était très délicat votre affaire puisque vous n'étiez pas Dantec. Vous voyez, c'est très très difficile par personne interposée de faire un show. C'est très difficile.
Oui.
C'est très difficile.
Pourrions-nous, Madame Delcom, tomber sur le cas de Alain Bouchard? Vous avez entendu parler que Alain Bouchard, sociologue des religions.
Ah, oui, c'est ça, je voulais l'appeler au début, celui-là.
C'est-à-dire
qu'Alain Bouchard, c'est un peu comme exactement le même discours que ce qu'on trouve chez Bell, c'est absolument incroyable. Vous savez que quand il dit, mais il n'y a pas plus de violence dans le Coran qu'il n'y a dans les textes du bouddhiste, les moines, en plus, il est très peu logique, parce qu'il dit les moines qui se sont fait brûler pour défendre leur position. Bah oui, mais attendez, moi je m'en fiche que les musulmans se fassent brûler, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils égorgent les autres. Ou quand ils explosent, peut-être, mais en même temps, ils explosent pour faire exploser le maximum de gens. C'est tout à fait différent. Un moine qui se sacrifie, périr par le feu, ça ne touche que lui. Le martyr chrétien, Blandine, qui s'est fait bouffer par les lions, ça ne touchait qu'elle. Le martyr chrétien, ça n'a rien à voir avec le martyr musulman. Le martyr musulman, il veut tuer. Le martyr chrétien, il se fait tuer. C'est une différence entre... Dites-donc, il y a une grande différence, là.
Ouais.
Alors, votre sociologue, je m'excuse, mais il est quand même super gonflé. Et c'est ça qui m'étonne, moi. Que le Coran a des passages violents, et la vie du prophète, je vous assure, il y a des passages, distribution du butin, là encore, quand il donne sa caution... Et en disant, mais oui, assassinez-le, je voulais lire, s'il n'y avait pas eu l'histoire de Soral, je voulais lire ça, c'est absolument ahurissant. Comment est-ce que nous avons le droit? Vous avez la permission de le tuer, allez-y. Et le chef de l'oasis de Khaybar a été assassiné. Et ça, c'est raconté dans la Sira d'Ibn Hisham. Ils l'ont assassiné avec, il leur avait même dit, le prophète, il est drôlement gentil, hein. Il leur avait dit, attention, ne tuez pas les femmes et les enfants. C'est dans la Sira de Ibn Hisham. Et alors ils lui ont planté de toute leur force leur sabre dans le ventre. Et l'homme a été transpercé. Ils sont retournés voir le prophète. Et le prophète a dit, montrez-moi vos sabres. Nous ne lui montrâmes, parce que c'est pas assez simple. Et alors il les examina, il a dit, c'est le sabre d'Abdallah qui l'a tué. J'y vois encore la trace de ce que l'homme avait mangé. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est, je m'excuse, mais c'est dans la Sira, de Ibn Hisham.
Bah en tout cas, Madame Delcom, il est certain que la semaine prochaine, on nous donne des informations via le live@rocky.com qu'il est professeur au cégep de Sainte-Foy. Et on va s'organiser pour lui poser quelques questions, à savoir s'il connaît bien le Coran, comme vous, je sais pas. Voir s'il est au courant de s'il est au courant, ouais, excusez-moi, s'il connaît les sourates sur le vrai jour, tel que vous.
Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'elles sont de plus en plus cachées. Et c'est ça qui est un peu gênant, parce que les gens ont de l'islam une vision plutôt tout à fait douce, l'islam religion de paix, de tolérance, et certains disent, ben, après tout, pourquoi pas l'islam plutôt que le catholicisme, ça changera, hein, ça changera,
oui.
Ça, c'est plus exotique, c'est plus, il faut changer de temps en temps, les gens fonctionnent comme ça maintenant, c'est un peu comme un supermarché, on change, hein, on avait quelque chose, ben, on prend une autre chose.
Tout à fait. Madame Delcamp, merci d'avoir été là.
Je vous en prie.
J'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler encore dans le blanc des yeux la semaine prochaine, vendredi prochain. Oui, c'est possible.
Bien sûr, bien sûr. Alors, à vendredi.
Oui, tout à fait. Bon week-end, Madame Delcamp.
Merci, est-ce à
que,
vous aussi.
Est-ce que vous avez encore votre petit froid que vous aviez attrapé la semaine passée?
Non, maintenant il fait une chaleur quand... Maintenant, je dis pas que c'est la canicule, mais c'est l'été, hein. C'est vraiment l'été.
Bon sang.
Voilà.
Est-ce que vous portez le voile par-dessus vous
ou... Non, ben...
Non?
Je suis anti-voile.
Ok, d'accord.
Je suis pas pour le string, mais je suis pas pour le voile.
Vous portez pas de string?
Ben non, je trouve que c'est pas trop pratique.
Non, j'avoue.
Voilà.
Ben
donc,
ça peut servir pour...
À vendredi, donc?
Oui, tout à fait. Ça peut servir d'accord. pour de la soie dentaire, Madame Delcamp.
D'accord.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Qu'est-ce que t'es con? Oui, c'est niaiseux.
Je sais même pas ça.
Non, c'est ça.
Non, c'est
pour ça que t'as lâché une niaiseuse en partant. Stop! Juste pour bien clore l'entrevue.
Hey! Je vous laisse tout. On n'a pas le choix de quitter Chris
ouais, bientôt. Ouais.
Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en ondes, c'est simple.
Allô? Allô?
Ouais. Je pense que ça irait plus vite par MSN. live@rocket.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.
Juste rapidement, 30 secondes.
Alors, for those who don't speak English...
C'est comme une espèce de soupe inexplicable.
We are... You are in their heart.
The ralliement.
Can exprime their point of view.
It's facile.
We are...
Vas-y, n'en parle. Est-ce que tu n'en joues point?
Dans les vies, c'est quelque chose qui est aussi important que le cul à voile.
Parfait, merci beaucoup de ces précisions.
Hey, Abraham! Suzanne, tu me lèves bien, elle me l'a dit bonjour.
Mais je suis tanné de le faire chier, c'est un bord.
Tu sais pas qui avec Flash, que vous en pensez.
Puis de le faire écœurer sur l'autre.
Du soleil, quelques passages nuageux, c'est là, c'est tout ce que c'est, là.
Ils t'entendent pas, là, le chicane est poigné.
Ma part me fait cracher dessus,
oui. Ça, c'est ça.
Hey John, remontage avec Pauline Marois.
Oh oui!
Démontrer ce que c'est le Québec en anglais.
Oh oui!
Oui, oui, non, vous avez raison, la mairesse, c'est bien pour ceux qui parlent pas anglais, tu sais. Et quoi, on
va faire un job à matin, Ismaël, qui va m'inscrire en bas du mois de Québec.
Rocket.